Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les podcasts Outsider. Aujourd'hui je suis de retour après un long hiatus au niveau des podcasts Outsider, parce que ça doit faire au moins un an et demi que j'en avais pas sorti. Et là je reviens avec un format assez modifié, puisque a priori il n'y aurait plus vraiment de podcasts. Créativité ou game design, non, j'aurais plus de podcast créativité, ni vraiment de podcast compte rendu à vous livrer. C'est-à-dire que les parties enregistrées, maintenant elles sont sur ma chaîne YouTube, j'évite de les mettre en forme comme je faisais avant, hein. Et puis podcast créativité, c'est vrai que ce que j'ai à dire sur la créativité, je suis nettement plus à l'aise actuellement, sur le format d'article de blog. Par contre, au niveau game design, là je recommence à faire des podcasts parce que voilà, en ce moment il y a plein de réflexions. Le milieu je trouve est hyper fertile. Donc moi j'ai l'occasion de discuter avec plein de personnes passionnantes qui ont le malheur de me donner des idées, des idées de game design. Et honnêtement, j'ai pas le temps de faire un article avec chaque idée de concept que j'ai envie de développer. D'où l'idée en fait de plutôt faire en podcast. Je trouve que c'est plus rapide. En tout cas, c'est moins de souffrance que devoir écrire un article. La particularité aussi nouvelle, c'est que ce sera beaucoup de podcasts solo, c'est-à-dire que je suis tout seul avec mon micro, enfin souvent avec mon bébé aussi, que vous allez entendre, hein. Je m'en excuse si par hasard ça vous procure une gêne. J'ai juste pas le choix en fait. C'est soit je fais du podcast avec bébé, soit j'en fais pas, puisqu'il fait partie de ma vie. Pourquoi des podcasts solo donc? C'est parce que quand j'ai une idée sur un concept, on va dire que j'ai souvent une pulsion de complétude, j'aime bien couvrir le sujet dans son intégralité, au moins l'intégralité que moi je perçois. Ça implique de dire beaucoup de choses, pour pas dire que je suis verbeux. Et si on fait un podcast à plusieurs, comme en plus on va se renvoyer la balle, faire du ping-pong. Ça va être encore plus long de développer les idées. Les précédents podcasts Outsider, ils faisaient 4 heures. C'était pas pour rien. C'est parce que on donnait la parole à tout le monde et on permettait à tout le monde d'épuiser ce qu'il avait à dire sur le sujet. Donc là, on part sur des podcasts plus courts où j'épuise mon sujet, mais je l'épuise tout seul. Et en fait, c'est aussi des sujets sur lesquels j'ai pas forcément besoin d'échanger sur le moment avec une personne. Ma propre vision du truc me suffit. Il y a des sujets où, au contraire, j'ai besoin d'avoir des contradicteurs, de voir un peu les avis des autres, soit parce que je me sens moins renseigné, ou soit parce qu'il y a juste beaucoup trop de choses à dire et que mon seul point de vue serait loin de me suffire, quoi. Donc il y aura toujours des podcasts ping-pong. Par contre, ce sera sans doute plutôt en invité sur d'autres podcasts. Voilà, j'espère refaire des voix d'Altaride avec Julien qui m'accueille avec une grande générosité. Et puis peut-être d'autres podcasts aussi, hein, en fonction des propositions que je pourrais faire et qu'on pourrait me faire. Alors, le sujet du jour, ça va être les osmoses de groupe en jeu de rôle, hein, donc. Qu'est-ce que c'est les osmoses de groupe en jeu de rôle? Julien Pouard appelle ça aussi des synergies. On peut aussi parler d'émulation. Plus concrètement, on va parler aussi de dynamique sociale, de coordination sociale. Mais en fait, la différence, si on veut, entre l'osmose et la dynamique sociale d'un groupe de jeu de rôle, c'est que l'osmose, c'est une dynamique sociale qui est vertueuse, où en fait les joueuses vont s'épanouir et c'est l'osmose va leur permettre d'atteindre une expérience de partie qui est optimale. On peut imaginer des dynamiques sociales qui seraient dysfonctionnelles, quoi. Voilà, l'osmose, c'est l'idée, c'est de parler d'un truc positif. Alors il y a aucune osmose qui est positive dans l'absolu, quoi. Ce serait sans doute vain de dire, bah, si vous avez telle dynamique sociale, vous allez forcément vous amuser. Non, en fait, ça dépend évidemment de chaque table. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'osmose au pluriel, il y a des osmoses. Donc, c'est quoi une expérience de jeu optimale en fait? Le fameux, l'important c'est de s'amuser, hein, qu'on martèle en jeu de rôle. Personnellement, c'est vrai que c'est une expression qui est décriée comme étant une expression de facilité qui permet en fait d'éviter de faire la théorie. Ouais, mais ça sert à quoi de théoriser le jeu de rôle? De toute façon, l'important c'est de s'amuser. Mais on peut la prendre complètement à l'inverse en se disant bah oui, effectivement, en jeu de rôle, comme dans tout loisir, activité. L'important, c'est de s'amuser. Et c'est important, effectivement, de garder ça à l'esprit. Et l'osmose, c'est un moyen d'atteindre cet amusement. L'amusement, il consiste en quoi? Ça peut être un état de flow, c'est-à-dire que les joueuses vont être complètement concentrées dans la partie, quoi, et dans la dynamique sociale. Ça peut être tout simplement un état de plaisir. Plaisir partagé. On peut parler, hein, puisque le jeu de rôle se limite pas au fun, hein, on peut parler de bouleversement, quoi, dans le cas de jeux esthétiques ou de jeux moraux notamment, hein. Tant que j'y pense, alors les podcasts sont décousus, hein, parce que je travaille sur des notes, c'est un peu du bordel, donc c'est un peu de l'inventaire à la Prévert, hein. Tant que j'y pense, un petit peu de référence biblio. Laboratoire de la coordination sociale, c'est une maîtrise de sociaux que vous allez trouver sur le grog. Hein, évidemment, j'ai omis de la lire, mais je pense qu'il y a carrément des billes sur cette notion de dynamique sociale et d'osmose à l'intérieur, quoi. En plus, j'ai le sentiment que ça parle à la fois de dynamique sociale telle qu'elle va se traduire dans l'aventure, dans la diégèse, dans la perception des joueurs, que les joueuses ont de l'aventure, mais aussi dans tout ce qui est méta, dans comment on organise les parties. Ça, c'est important de souligner, hein, que l'osmose, c'est vraiment un truc qui va à la fois déborder du cadre de la diégèse, mais aussi qui va déborder du cadre temporel de la partie, puisque c'est quelque chose qui va se décliner dans le temps. Avec des engagements sur la durée, notamment dans le cadre du jeu en campagne, quelque chose qui va engagement de groupe qui va atteindre son pinacle. Dans ce que j'appelle les jeux pervasifs, par exemple Sens Exalogie, donc une campagne longue, il y a quand même, il est prescrit 6 séances. Par livre, donc là je crois qu'il y a 5 livres. Honnêtement, quand on lit le jeu, on sent bien qu'il est quand même conseillé de faire des séances intermédiaires, donc on est à nettement plus de 6 séances en fait par campagne. Et il est conseillé de faire des scénarios solo, il est conseillé de discuter du jeu en fait. Donc on est quelque part sur une forme de jeu de rôle qui est persistance. C'est-à-dire que le jeu il s'arrête jamais, quoi. Entre les séances, eh bien, on continue à jouer, quoi. Et donc là, entre guillemets, c'est un. Si on arrive à avoir une dynamique sociale vertueuse dans ce type de jeu, si on arrive à avoir une osmose, c'est une osmose persistante, quoi, qui va durer tout le temps de la campagne, pendant les séances et entre les séances. L'osmose, c'est une dynamique de groupe qui va être faite à la fois de formulée et de tacite. Alors, c'est quoi le formulé? C'est les choses qu'on se dit, les choses sur lesquelles on se met d'accord. Il y a le contrat social, il y a les règles du jeu, tout simplement, hein. Notation VF, citation discrète. Et c'est là où on va retrouver notamment la notion de vide fertile. Le vide fertile, il est présent dans certains systèmes. Où on veut, en fait, on écrit un système de jeu de rôle qui est designé pour favoriser un type d'osmose. Et il le fait en fait par un ensemble d'incitations discrètes. Il peut aussi y avoir des prescriptions, hein, par exemple, si le jeu te prescrit, bah, mettez-vous d'accord sur ce que vous jouez, sur les lignes et les voiles, tout ça. Il y a des prescriptions, même dans des jeux étant vendus entre, qui nous étant vendus entre guillemets, par exemple par Frédéric Sintès, comme étant dotés d'un vide fertile. Je pense qu'il y a des prescriptions qui sont, quoi, là, des prescriptions qui sont directes, non discrètes, hein. Puisque bon, par exemple, dans Dogs in the Vineyard, il y a quand même un certain nombre de prescriptions, notamment le fait que les dogs soient les seules personnes qui soient légitimes, enfin qui soient considérées comme étant légitimes pour rendre la justice. Bon, encore que, on se rend compte que les villageois, la plupart, ne les considèrent pas comme légitimes, puisqu'en fait, ils ne leur obéissent pas. Il faut les forcer par par le dialogue ou par la violence. Bon, je vais pas les citer dans le menu, mais dans un jeu à vide fertile. Il y a des prescriptions, hein, évidemment, comme je dirais dans la plupart dans tous les jeux de rôle, quoi. Il y a des prescriptions qui sont visibles, il y a des panneaux indicateurs qui sont clairement visibles, mais il y a aussi un ensemble d'incitations discrètes. Il y a en fait diverses mécaniques qui vont s'allier pour amener eh bien, les joueuses vers une osmose, comment ouais, sans forcément le faire de façon ultra visible. Hein. Mais de toute façon, tous les jeux, en fait, tous les jeux essayent de favoriser une osmose. Hein. À part des jeux vraiment squelettiques, si on prend un nanogame comme Simple 20, qui est une espèce de réduction minimaliste de Donjons et Dragons, bon, enfin, c'est juste un système de résolution, on te dit comment faire des dégâts et on te donne une liste de compétences. C'est évident que là, on laisse les joueuses se démerder pour construire leur osmose. C'est leur problème, pas le problème du jeu. La partie tacite de l'osmose, c'est ce qui fait que le groupe est en synergie. Mais sans qu'on ait pris la peine en fait de formuler, de verbaliser la chose, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se mettre en place d'instinct. Il y a la communication non verbale qui va entrer en jeu, quoi, aussi. Et la communication non verbale, c'est quelque chose qu'on intègre mentalement sans même s'en rendre compte, quoi. Je considère personnellement aussi qu'une partie de la communication autour d'une table de jeu, elle est hormonale en fait, hein. Bon, certes, on n'est pas des insectes, mais on communique quand même par phéromones, hein, par hormones. Donc, d'une certaine façon, on va se mettre ensemble d'une forme de diapason par tous ces modes de communication qui sont un peu tacites, non-verbaux. Et autre chose qui va orienter la mise en place tacite d'une osmose, c'est l'expérience du groupe, en fait, l'historique que le groupe a en commun. C'est-à-dire, bon, bah, l'osmose, elle va pas se mettre en place de la même façon si les joueuses elles jouent ensemble pour la première fois ou si ça fait 15 ans qu'elles jouent à la même campagne toutes les semaines, quoi, hein. Ça, c'est, et ça fait partie du vécu qui participe de l'osmose sans être vraiment formulé, quoi. Et il y a évidemment l'expérience de chaque joueuse qui va entrer en jeu. On peut supposer que si on met ensemble des joueuses qui ne se connaissent pas, mais qui ont des affinités communes, qui ont des expériences proches ou complémentaires, eh bien elles vont rentrer en osmose comme ça, du premier coup. Bon, moi j'avoue que j'ai moi-même connu des expériences comme ça assez magiques, hein, où effectivement on se connaît pas, mais on sait, il y a une rencontre, ça fonctionne, quoi. Et il y a une notion que le tout est supérieur à la somme des parties, quoi. Il y a aussi l'inverse qui est de dire que l'osmose est rompue du moment qu'il y a une joueuse qui est pas dans le truc, quoi. Soit la centaurette qui reste dans son coin, soit la joueuse qui est mal à l'aise par les thèmes déployés, soit la joueuse qui a rien compris au canon esthétique, ou celle qui comprend pas les règles. Alors on verra que ça c'est des choses qui peuvent être en fait fertiles, notamment en cas du jeu social, où il y a une joueuse qui est larguée, ou qui est tout simplement peut-être pas à la bonne table, pas au bon jeu, et en fait les autres joueuses elles vont réussir à voir son problème, son malaise, et elles vont se mettre en ordre de marche, pour accompagner la joueuse larguée, la faire revenir dans le jeu, et finalement c'est un problème qui va générer une osmose peut-être supérieure si on n'avait pas eu cette joueuse larguée. Moi je rappelle une partie d'Inforenza. Il faudrait que je mette la tour inversée, c'est ça, ouais, la tour inversée. Vous regarderez dans les comptes rendus d'Inforenza où j'avais un joueur qui était timide, qui manquait d'idées hein, pour son personnage, pour créer des situations autour. Et à un moment, on l'a bien senti. Heureusement, il nous l'a fait connaître. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis d'accord pour faire plus de liens avec son personnage, pour lui présenter des situations. Et d'un personnage qui était complètement en orbite autour de nous, en orbite, genre, je suis en train de quitter l'orbite et de me parer dans l'espace, il est finalement devenu un soleil autour duquel on a gravité. Et ça, c'est un bon souvenir, en fait, un excellent souvenir, effectivement, de joueurs largués qui, en fait, en exprimant ces problèmes, nous a permis de complètement inverser la vapeur et faire monter la partie vers le haut. C'est pour ça que moi, j'ai une formule qui s'appelle celle qui se sent mal doit le dire. C'est-à-dire que si vous avez un problème dans la partie et que vous évitez de le formuler parce que vous avez l'impression que les autres joueuses, eh bien, elles s'amusent en vous disant c'est pas grave si moi je m'ennuie, que je passe un mauvais moment, ceci, cela, les cinq autres personnes à la table, elles sont en plein kiff. Donc je vais juste taire mon malaise et puis je vais laisser passer. Éventuellement, au moment du débriefing, je vais expliquer le problème. C'est extrêmement vertueux d'arrêter l'aventure 2 minutes et puis dire attendez, là j'ai un problème, je vous dis voilà c'est quoi le problème que j'ai, et en fait honnêtement vous allez rencontrer que de la bienveillance en général autour de la table, on va trouver des solutions et on va repartir sur un nouveau souffle, une nouvelle dynamique. Là encore, dernière partie d'Inforenza que j'ai fait, ça s'appelle Epistolial, compte rendu de partie, il sortira quand il sortira, hein, donc tard quoi. Inforenza, c'est du jeu en tour par tour. Et puis, en fait, il y avait un joueur qui voyait ça comme des moments où mon tour, c'est mon personnage, et c'est des trucs vraiment centrés autour de mon personnage. Je pense qu'il voulait jouer un truc un petit peu à la Magnolia, c'est-à-dire où chaque personnage vit son truc de son côté, puis les histoires, elles vont lentement converger. Et en fait, on était plusieurs joueurs à pas jouer comme ça, c'est-à-dire qu'on hackait les tours des autres, c'est-à-dire que quand c'était le tour d'un autre, on faisait intervenir notre personnage de façon intensive, on rentrait en interaction avec le personnage en tour, quoi. Et ça, effectivement, au bout d'une heure de jeu, il nous dit Ah oui, j'avais pas compris ça, ça m'ennuie que vous piratiez les tours des autres. Moi, j'aurais voulu des trucs plus posés, chacun en son coin, et puis on est spectateur un petit peu de l'histoire de chacun. Et là, on s'est tous dit, ok, si te manque ça pour prendre ton kiff, il n'y a aucun souci, on va revenir un peu vers ce que tu recherches. Et ça s'est hyper bien passé, il y a eu un vrai second souffle dans la partie, quoi. Et voilà, et si c'était tu, je pense que la partie elle aurait été nettement moins intéressante, mais pour tout le monde, quoi. Parce que même si, supposons, on avait continué comme ça en faisant des tours piratés, avec beaucoup d'interactions, lui, il aurait passé un mauvais moment. Peut-être que nous, on se serait amusé. Mais au moment du débriefing, eh ben, il nous aurait dit sans doute, ouais, bah moi, j'étais emmerdé parce que voilà, je voulais des tours en solo bien posés et j'y ai pas eu droit. Et du coup, en fait, ça va nous gâcher notre plaisir. Donc il y a deux solutions, quoi. Soit la personne, elle dit jamais son problème, et puis un beau jour, elle se casse du groupe ou elle fait j'ai piscine à chaque fois que j'en lui propose une séance. Soit elle le dit, mais vraiment au moment où le problème se présente et on le répare tout de suite. Moi perso, bon, je sais que j'aime pas trop énoncer des préférences, mais quand même, je trouve que la deuxième solution me semble un peu plus cool d'un point de vue social. Alors, je vais un petit peu redéfinir l'osmose. L'osmose, c'est une attitude de groupe qui va créer une forme à la fois d'expression, hein, et dans l'expression, on va englober le roleplay, l'incarnation du décor, des figurants, enfin, qu'est-ce qu'on raconte, hein, tout simplement, dans l'aventure. Et ça va aussi créer une forme d'immersion, hein, c'est important, hein, ça agit vraiment sur le feeling des joueuses, quoi. Et puis après, l'expression et l'immersion, enfin, émission, perception, ça c'est une boucle, hein, qui s'influent l'un l'autre, hein, évidemment. Je vous renvoie au podcast Immersion sur les voies d'Altari, toujours hébergé par Julien, voilà, qui est vraiment, entre guillemets, c'est un peu le grand frère qui m'héberge quand j'ai nulle part où dormir. Voilà, salut, j'ai un podcast, il l'héberge, c'est cool. Alors oui, donc ça crée une expression et une immersion de groupe vertueuse, voilà, encore une fois. Je reviens un petit peu sur l'expérience de groupe. Hein. Parce que je te dis, oui, bien sûr, si les joueuses, ça fait 20 ans qu'elles jouent ensemble, il y aura une dynamique sociale vraiment spéciale. Alors, effectivement, tu vas trouver des joueuses, tu sens que elles sont tellement bien rodées ensemble que, ouais, ça va juste être bien huilé, ça va être super organique. Et puis, il y a des vieux groupes qui sont dysfonctionnels parce que. Il y a des groupes qui continuent à jouer ensemble bah parce que c'est l'habitude qui est prise, parce qu'on est copains dans la vie. Soit en fait, on est copains dans la vie, copains-copines. Et puis du coup, bah on joue ensemble parce que c'est ça. Mais en fait, on a beau s'apprécier dans la vie, bah peut-être qu'on a des attentes de jeu qui sont trop divergentes. Et puis, ce qu'il y a des fois aussi avec les. Ou alors, c'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire que c'est on aime bien le jeu auquel on joue tous et toutes. Sauf que ben, au niveau interpersonnel, dans la vraie vie, eh ben, il commence à y avoir des frictions, voilà, il y a des amitiés qui peuvent se rompre, tout ça, et ça, bah, forcément, ça va nuire à l'osmose, hein, c'est évident. Hein. Tac. Et je prends un autre exemple, je rappelle une partie de Wonderland, ça s'appelle Keyboard Cat, alors à nouveau, compte rendu de partie. Donc, aux Utopiales, je vois arriver en fait à ma table un groupe de 5 personnes, vieux copains. Alors effectivement, eux, l'osmose, tu la sentais sur eux, quoi. Ils étaient vraiment au diapason. Enfin, ouais, le groupe super bien huilé qui se répondait vachement bien. C'était tous dans le même délire, délire un peu humoristique, mais en même temps, on joue, on est impliqué dans le jeu, quoi. Et bon bah il y avait moi qui bah du coup je faisais pas partie de leur groupe historique, c'était la première fois que je les voyais quoi. Et puis, il y avait une autre joueuse qui s'était inscrite à ma table. Bon, moi j'avais qu'une partie d'historique avec elle. Elle ben elle avait zéro historique avec ces personnes-là. Il y a un moment elle est partie chercher son sandwich. J'ai pris les 5 autres à part. J'ai dit les gars, moi je vois bien que vous êtes vachement sur le même délire, mais s'il vous plaît, laissez-nous monter à bord du bateau, quoi. Sinon, bah effectivement, que ce soit moi ou même surtout, bon, parce que moi en tant que MJ, ça va, je peux quand même facilement tirer la couverture à moi. Je peux entre guillemets sauter dans le bateau de force, quoi. Bah la joueuse, quoi, qui vous connaît pas. Bon, en plus, ouais, vous êtes 5 mecs, c'est une nana. Bon, on connaît les biais sociaux, hein, que ça implique. Donc soyez cool avec elle, faites des liens avec son personnage, faites-la monter dans le bateau. Et je suis rétrospectivement, je suis bien content de l'avoir fait parce qu'ils en ont vachement pris compte et donc on a eu une partie ouais, vraiment mémorable. Et ouais, franchement, les gars, si vous vous reconnaissez, on remet le couvert quand vous voulez. Cette osmose de groupe, hein, elle va évoluer en fait. Il y a des cycles de vie du groupe de joueuses, quoi. Il va y avoir des creux et des vagues. Hein. Bah, encore une fois, hein, je parlais la vie hors jeu, elle va influer, quoi. Il y a des moments où bah, t'as des personnes, elles vont être en déprime, en bad, vas-y, je suis pas bien, quoi. Au contraire, bah, il y a des bonheurs, tu vois, qui vont influer sur le jeu. Et même des fois, tu te dis, ouais, la personne en ce moment, elle est à un bon moment dans sa vie. Du coup, ça va favoriser l'osmose de groupe. Eh ben, c'est pas forcément vrai, parce que du coup, si t'es épanoui dans d'autres activités, dans ton travail, ta vie de famille ou d'autres loisirs, eh ben, du coup, tu vas pas forcément venir chercher ça dans le jeu de rôle, et tu vas être moins impliqué dans la table, tout ça. Tu vas peut-être louper des rendez-vous, tu vas être plus distrait, tout ça. Ou justement, tu vas passer toute la partie à raconter comment ta vie est merveilleuse. Et inversement, tu vois, une personne en bad, elle peut peut-être contribuer à l'osmose pour deux raisons. La première, c'est que moi, je sais que personnellement, là, j'ai une compte-rendu partie de Milvaux, Seuil de la folie, là, qui s'appelle. Non, je sais plus comment elle s'appelle. J'avais une dure journée avec mon bah voilà bébé, ça fatigue un peu. Enfin, une dure semaine surtout, voilà. J'étais bien crevé, ouais, on peut le dire, j'étais en bad, quoi. Et du coup, je suis arrivé à la table, je me suis dit, vas-y, je me lâche, quoi. Là, enfin, vraiment, j'ai joué à fond la carte du jeu de rôle évasion, quoi. Je m'oublie dans la partie, je me donne à fond, quoi. Je me fais plaisir. Et voilà, ce que j'ai essayé de faire, c'est de me faire plaisir avec les joueurs, quoi. Donc, en plus, là, j'ai une chance que niveau au seuil de la folie, c'est. Les personnages, ils ont plein de liens, ils ont plein de souvenirs et puis de motivation qui fait qu'il y a plein de boutons à appuyer, quoi. Donc du coup, c'est fait du jeu character center, donc j'ai construit plein de trucs avec les personnages, j'ai fait des scènes ultra mindfuck, j'ai encore avancé dans l'univers de Milvaux, donc. Et bon, voilà, c'est pas que un kiff personnel, quoi. Je pense que là, l'osmose du groupe, elle était présente, quoi, à cette table-là, quoi. Bon, voilà, les autres trucs qui vont influer, c'est bah, la maladie, hein, évidemment, la fatigue, les charges qu'on a. Hein. Je parlais, bon, bah voilà, moi j'ai bébé à m'occuper, quoi. C'est un bonheur, mais c'est aussi une charge. Hein, donc ça va influer sur mon attitude, quoi. Les contraintes, j'ai aussi parlé des évolutions de l'amitié dans le groupe. Alors, l'ensemble des osmoses, c'est un peu une pomme de terre, quoi, et on peut découper la pomme de terre de différentes façons, parce que j'ai dit qu'il y avait plusieurs types d'osmoses. Je vais la découper avec mon couteau atomistique. Alors, c'est quoi l'atomistique, hein? C'est découper la patate jeu de rôle en quatre parts, qui sont. Le jeu de rôle social, le jeu de rôle esthétique, le jeu de rôle moral et le jeu de rôle tactique. Alors concrètement, bah, je vous renvoie au podcast Ludologie sur les quatre formes de jeu et puis aux quatre podcasts sur les, enfin cinq, sur les voies d'Altaride hein, qui dissèquent vraiment ces notions-là avec toutes les nuances que là je vais éviter de donner parce que ce serait trop compliqué. Je vais un petit accent hein, quand même sur le podcast sur le jeu de rôle social parce que voilà, on parle quand même de dynamique sociale. Alors, il y a une osmose dans toutes les formes de jeu, quoi. Mais quelque part, cette notion d'osmose est d'autant plus importante eh bien, dans le jeu de rôle social. Alors, il y a une. Par rapport à l'atomistique, je dirais qu'il y a deux façons de considérer les choses. La première, c'est de se dire que le groupe peut entrer en osmose que si les joueuses, elles ont les mêmes attentes, les mêmes priorités, les mêmes préférences du point de vue des atomes. C'est-à-dire que Par exemple, faut que toutes les joueuses soient dans un moment où elles vont jouer social, où toutes les joueuses soient là pour jouer morale, et ainsi de suite, pour que... C'est plus ou moins le propos de la GNS, hein. Je pense pas tellement travestir la GNS en disant ça, quoi. Quelque part, ça c'est une approche, on va dire, qui est là pour atteindre une forme d'intensité. On parle aussi de cohérence interne, quoi. Donc l'idée de que les joueuses soient au diapason, c'est au diapason en fait aligné sur une forme de jeu identique, quoi. Alors, je vais, avant de débattre ça, je vais, comment, on peut contredire en fait. Avant de contredire, je vais quand même le développer. Alors, ce serait quoi, par exemple, une osmose en jeu de rôle tactique? En fait, toutes les joueuses qui jouent tactique, qui sont d'accord pour le faire, quoi, j'appellerais ça l'esprit de match. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on s'est mise d'accord pour jouer tactique et que il y a une joueuse qui en fait va jouer tactique du genre ouais on a donjon et dragon, il faut qu'on relève des défis, c'est nous contre le donjon, contre les monstres, voilà, on est en équipe pour réussir le mieux possible. S'il y a une joueuse qui en fait elle a prévu de jouer le perso un peu boulet, un peu pas dans, enfin voilà, pas qui un peu qui sert à rien ou qui est là pour être rigolo ou qui est plutôt dans ses intrigues perso tragiques machin, bah on peut se dire ouais l'osmose tactique elle est foutue quoi. L'esprit de match c'est bah on joue le jeu quoi. On joue le jeu, c'est comme bah si t'es au football et que t'as la gardienne de but et ben elle est juste là pour être avec tout le monde et puis rigoler et puis qu'elle passe en fait elle boit des bières près de la lucarne plutôt que d'arrêter les buts, d'arrêter les ballons, bah ça va gâcher le plaisir de tout le monde quoi, hein, ça paraît évident quoi. Hein. L'esprit de match, il est valable dans la coopération, par exemple quand on est un groupe qui joue en équipe contre une adversité, mais c'est aussi valable dans la compétition, c'est de se dire, par exemple si on joue un scénario tactique PVP, eh ben ça veut dire tu joues le jeu quoi, hein. Ça veut dire que tu joues ton perso, si tu dois jouer un traître, ben tu joues vraiment traître parce que si tu sous-joues ça, tu vas présenter une adversité molle aux autres joueuses, et du coup ben tu fais dérailler la partie quoi, vers autre chose quoi. On n'est plus dans. On est voilà, bah, quelque part à un match de foot, même amical. Ben, si chaque équipe se donne pas à fond, ben, pour que ben, le match il va peut-être être moins intense, moins sympa quoi. Bon après faut pas se donner trop à fond, hein. Si vous commencez à tacler les autres joueuses, on passe peut-être dans autre chose quoi, hein, que de l'osmose. Hein, si vous êtes trop défendre le truc, donc il faut garder un fair play, c'est tout ça l'esprit de match. Du côté du MJ, participer à l'esprit de match, eh ben c'est effectivement jouer vraiment l'adversité quoi. Si tu sauves les joueuses à chaque fois qu'elles font une bêtise, ben t'es pas dans l'esprit de match quoi. Il faut que tu fasses le méchant, hein. C'est le jeu quoi. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Ouais, je fais plus de blagues que d'habitude parce que je suis tout seul. Alors, si je déroule mon truc de façon monocorde, ça va vraiment faire penseux, mais je pense que vous allez juste vous faire chier. Voilà, je suis un petit peu plus à la Wendegen que je suis dans les autres podcasts. L'osmose morale, j'avoue, j'en ai un peu peiné pour trouver un terme pour la définir. Faute de mieux, j'appelle ça le sens du drame. Le sens du drame, c'est quoi? C'est être consciente en tant que joueuse qu'on participe à une histoire dramatique ou mélodramatique, à une aventure qui peut. Enfin, j'aime bien le concept en jeu moral d'aventure tragique. On joue une aventure, c'est-à-dire la fin n'est pas écrite, mais on joue une aventure tragique, ce qui est un peu un contresens, hein, je fais exprès. Hein, c'est une aventure tragique, ça veut dire que On sait que les choses peuvent mal tourner, on sait que nos personnages vont se retrouver face à des dilemmes moraux, vont devoir se positionner moralement. Et ben, faire participer au sens du drame, c'est conscientiser ça. Et puis ben, aller dans le sens de ça. Donc il y a des moments où tu vas le faire en mode auteur. Bah, par exemple, mon personnage, je vais lui inventer des drames passés, je vais lui inventer des objectifs. Alors, il faut qu'on parle de ce deux groupes. Hein, donc, si je vous parle juste de ce que doit faire une joueuse, je suis hors sujet. Donc, en mode auteur, ça veut dire qu'on va faire des liens entre le groupe. C'est-à-dire, ouais, on a vécu un drame commun. Ouais, mais en fait, moi, je suis la personne qui aurait pu éviter ce drame, mais j'ai rien fait pour des raisons X, Y. Ouais, bah moi je suis la personne qui a vraiment le plus souffert du drame qu'on a vécu en commun et je vous en veux grave, et ainsi de suite. Donc c'est. Il y a un petit peu, c'est mettre en place des idées qu'il y en a qui veulent pardonner, il y en a qui veulent se venger, il y en a qui ont une rédemption, il y en a qui ont quelque chose à prouver, et c'est vis-à-vis les uns des autres, quoi. C'est faire déjà des liens entre les persos. Et puis ça se construit pas uniquement à la création de personnages, hein, ça se construit tout au long du jeu, quoi. Donc tu vas. Si tu sens que tu peux faire monter une mayonnaise dramatique, tu le fais par le biais de ton personnage. Et en même temps. Si tu fais tout le temps en mode auteur, eh ben, quelque part tu sabotes le navire drama, puisque le but quand même quand on joue, un des buts on va dire quand on joue moral, c'est d'entrer en bleed, hein, c'est-à-dire d'avoir ressentir un peu les mêmes sentiments que le personnage, c'est-à-dire être en colère avec le personnage, être triste quand il est triste, tout ça, quand le personnage il a des dilemmes, faut qu'on se les approprie. Et donc il y a un travail, effectivement aussi pour dès qu'on peut vraiment rester immergé dans le personnage, avoir des relations avec les autres joueuses, mais vraiment de personnage à personnage, quoi. Ça implique notamment dans des fois au lieu de passer en. Parce que quand tu joues en proposé validé, c'est vraiment du mode auteur. Dans le sens, par exemple, Louise. Qu'est-ce que tu penses si on dirait que mon personnage, en fait, il veut se venger de toi, mais que en réalité, il t'aime? Puis la joueuse va dire oui, va dire non. Mais si elle dit oui, si tu veux, on a fait un truc clairement, c'est ultra visible que c'est du. On est en mode. On est des dramaturges au-dessus de nos personnages, quoi. Et ça peut un peu affaiblir le sens du drame. Des fois, il faut dire cash à la joueuse. Bah, tu sais, quand même, ce que tu m'as fait, ça m'a fait vraiment mal. Et moi, je veux me venger de toi, mais. Et ça m'est difficile parce qu'en même temps, voilà, je t'aime, machin et tout. Là, j'énonce, tu vois. Et la joueuse en face, elle a que à accepter parce que elle peut pas contredire ce que dit et ressent mon personnage. Enfin, dans la plupart des jeux, évidemment. Sur les notions de partage des responsabilités, c'est l'océan des possibles, hein, on sait bien. Donc c'est ça qui est hyper intéressant dans le sens du drame, c'est qu'il y a une sorte de shift permanent à la fois des joueuses et du groupe entre un mode auteur et puis en immersion en fait dans le fait de raconter l'aventure. On appelle ça aussi immersion dans l'univers en GN quoi. Immersion, bah, plus que immersion dans l'univers, immersion à la narration quoi. Et puis, moment, tu vas shifter dans toujours ce qu'on appelle en GN l'immersion dans le personnage, quoi. Et c'est vraiment une sorte de switch permanent. Bon, alors, évidemment, chaque joueuse a une tolérance différente au switch. Il y a des joueuses morales qui vont avoir besoin d'être un maximum immergées dans le personnage. Donc, souvent, là, pour leur permettre de s'amuser, ce qu'il faut faire, c'est. Placer le mode auteur vraiment avant la partie où effectivement on fait quand on fait la création du personnage, du groupe, du setting en commun, on va faire ça vraiment en mode auteur et puis après dans les interscénars, dans les débriefings aussi, et du coup pendant le scénar, on laisse les joueuses être vraiment identifiées à leur personnage quoi et de se battre pour leur perso quoi. Et autre shift hein, qu'on va trouver évidemment, c'est dans le sens du drame, c'est effectivement le groupe qui va shifter en permanence entre la combativité, on se bat pour son personnage, et puis l'introspection, quoi. Donc CF, toujours combativité et absorption par Frédéric Sintès. Et si tu veux, par exemple, dans les cordes sensibles, il y a aussi là où tu vois la synergie de groupe, c'est. On fait pas, en fait, bah, pour être immergé dans le personnage, il faut qu'il y ait une adversité qui soit vraiment extérieure à nous, qui soit jouée par quelqu'un d'autre, quoi. Ça semble la plupart du temps nécessaire. Dans Les cordes sensibles de Frédéric Sintès, du coup, c'est résolu dans la dynamique sociale, c'est résolu d'une façon que bah, on joue à MJ tournant. Bah, hop, chacun son personnage. Et puis. Quand c'est autour de ton personnage, tu choisis si tu veux faire une scène d'introspection, si tu veux plutôt une scène où il va t'arriver des dilemmes moraux dans la gueule, tu vas devoir les gérer. Et quand tu demandes une, bah, c'est un peu une scène d'adversité, tout simplement. Et quand tu demandes une scène d'adversité, bah, il faut qu'il y ait une autre joueuse qui se dévoue, et ben pour faire le MJ, pour te balancer l'adversité dans la face. Mais c'est pas que elle en fait. Il y a un rapport de partie sur les cordes sensibles, sur les ateliers imaginaires où. C'est l'histoire, donc la joueuse dont c'est le tour, elle joue un perso qui se retrouve en galère d'appart, et du coup elle arrive dans la coloc des autres personnages. Et en fait, les joueuses qui jouent les autres personnages lui font comprendre que ouais, tu peux venir dans la coloc, mais t'as pas d'argent pour payer ta part du loyer. Donc, on va te faire faire toutes les tâches ingrates, c'est toi qui feras la vaisselle, le ménage, tout ça. Et du coup, la joueuse, elle se retrouve en plein dilemme. Ouais, vas-y, qu'est-ce que je fais? Soit je suis à la rue, soit je deviens leur esclave. Bon, je grossis le trait volontairement, quoi. Elle est en plein bleed et tout. Et quelque part, c'est parce que toutes les autres joueuses, elles se sont dévouées pour se mettre. Nous, on se met en mode auteur, on incarne l'adversité. On rend notre personnage peut-être plus dur que ce qu'on l'imaginait. Juste pour qu'elle se sente dans le dilemme moral, quoi. Puis bah, ça va tourner comme ça. D'ailleurs, c'est marrant, je dis. On peut le jouer en solipsisme. Le jeu en solipsisme, c'est quand on fait cohabiter les visions du monde que chaque personnage a et qui sont contradictoires, quoi. Peut-être que dans cette histoire-là, en fait, les joueuses qui jouaient les colocs méchants, elles vont dire: ouais, c'est vrai, en tant que joueuse. J'ai fait exprès de. J'ai un peu tordu mon personnage pour mettre un coup de pression. Pour mettre un coup de pression à la joueuse, quoi, qui cherche un appart. Pour autant, si tu veux, dès que je rentre dans mon personnage, je peux le formuler autrement en disant: ouais, non, vraiment, en fait, en tant que coloc, moi, je suis prêt à l'accueillir. Enfin, dans la notion de, tu sais, tout le monde. Comment, il y a une. Enjeu moral, si tu veux, il y a une théorie qui est que tout le monde est persuadé d'être le gentil de l'histoire, quoi. Même Al Capone, il était persuadé d'être quelqu'un de bien, quoi. Et donc, si tu joues, si tu peux rester en bleed, identifier ton personnage en te disant, bah ouais, non, mais en fait, moi, franchement, ce que je lui propose, c'est quand même un deal vachement généreux. On lui file un appart, ça va, on lui demande juste de faire la vaisselle. Déjà, c'est pas grand-chose, c'est moins que si on demandait de payer le loyer. Puis finalement, c'est aussi la valoriser que lui demander de rendre un service, parce que si on l'hébergeait en échange de rien, eh ben, ça la dévaloriserait, ça fait un peu, ah, vas-y, t'es une victime et nous, on a trop pitié de toi. Voilà, c'est super marrant dans cette notion de sens du drame de voir les shifts entre mode auteur et immersion dans le personnage. Ah, Victor se réveille, peut-être qu'on va entendre des petits pleurs de bébé. Oh non, tu dors toujours, c'est cool. Tac. Alors, ensuite, l'osmose sociale, c'est quoi? Moi, j'appelle ça la connivence. Alors, j'en ai déjà bien parlé dans le podcast Jeu de rôle social avec Sandra et Julien. La connivence, en fait, c'est une osmose qui se place plus au niveau des joueuses qu'au niveau des personnages ou au niveau de l'aventure, quoi. Et elle se concentre en fait sur. C'est un peu. Je sais pas comment dire. J'appelle ça l'effet clin d'œil en fait. Style, ouais, la connivence, c'est quand tu balances un truc dans l'aventure, quoi. Puis tu fais un petit clin d'œil aux autres joueuses en disant, ouais, là, on va bien s'amuser avec ça, tout ça. Le jeu en connivence, bah, c'est un jeu qui est concentré sur les personnes, dans le sens où, effectivement, on va jouer sur le confort des personnes. Il y a une notion de fair play, en fait, aussi dans le jeu en connivence. De fair play, de jeu au service. Et notamment, je pense que c'est une forme de jeu qui insiste sur le temps de parole et de spotlight, où on va essayer d'équilibrer effectivement que chaque joueuse ait son quart d'heure de gloire. Et puis, il y a l'osmose esthétique, qui est l'harmonie. L'harmonie, je la décrirais un peu comme un groupe de jazz qui joue sans partition ou avec une participation minimaliste. Une partition minimaliste, bah, c'est un peu la métaphore de règles de jeu de rôle, quoi. C'est une partition qui ne peut pas dire toute la mélodie. Une bonne partie de la mélodie, elle est émergente. Et en fait, eh ben, voilà, le saxophoniste, il va lancer un son, et puis le batteur, il va le reprendre, le trompettiste, il va tricoter là-dessus, ça va se répondre, et un truc, on va monter une mayonnaise, esthétique ensemble, quoi. Comment avec, vraiment, par exemple, tu vois, dans Influenza. Influenza, on joue des héros, des salauds et des martyrs, bah, il y a un peu une distribution des rôles narratifs qui va se faire naturellement. On dit, dans ce style-là, ouais, bah, ok, toi, visiblement, tu joues le paladin, tu joues le héros, bah attends, moi, je vais faire un gros connard parce que, voilà, dans une bonne histoire, il y a un héros et puis il y a un connard, et puis du coup, bah, tiens, moi, je vais équilibrer ceci, cela. Ah bah tu joues Don Quichotte, bah forcément t'as besoin d'un sidekick, moi je vais faire ton Sancho Panza, ainsi de suite. Et puis alors bon, je pense que j'ai beaucoup parlé de roleplay en fait, en quelque sorte, hein, de dire bah, comment le roleplay des joueuses, puis aussi la communication sociale entre joueuses va créer l'osmose. Plus que dans n'importe quelle autre forme de jeu, comment l'osmose tactique, l'harmonie, elle passe par la narration, par la façon dont on s'empare du décor et des figurants, voilà, par le fait de raconter une histoire quoi, ensemble, de se monter une fanfiction de ouf. Oui, je parle comme un Jones, hein, c'est vrai que d'habitude je suis un peu plus modéré, hein, un peu plus poli, mais bon voilà, je suis tout seul, j'ai aucun contrôle, je suis en freestyle, je suis fatigué. Donc voilà. Cinquième osmose, que j'arrive pas à caser en fait dans. Et qui déborde un peu de ma patate du jeu Atom. J'appelle ça l'esprit de playtest en fait. C'est quand, par exemple, convention, il y a un MJ ou un auteur qui s'amène et dit, bah voilà, mon jeu, il est en développement. Donc, s'il vous plaît, les gens, bah, testez le jeu. Et ne faites pas que jouer, testez, quoi. C'est-à-dire, soyez attentive aux failles du jeu, à ses qualités, préparez-vous à donner vos impressions lors du débriefing, peut-être préparez-vous à demander des réparations du jeu en cours de route, hein, quand il est vraiment très jeune, des fois il faut s'arrêter en milieu de partie et dire attends, là il y a un problème, attends, il faut que tu changes la règle tout de suite parce que sinon on ne pourra pas finir la partie, ceci, cela, quoi. L'esprit de playtest, c'est se dire, ah ouais, bah, les joueuses, du coup, elles vont tester les mécaniques, par exemple. Un bon esprit de playtest. Alors, j'avais une super biblio sur justement l'esprit de playtest. Alors, il faudrait que je retrouve ça sur mon blog. Mais grosso modo, le bon esprit de playtest, par exemple, c'est, tu vois ta feuille de personnage, il y a des compétences, des atouts, enfin, il y a plein d'informations. Et en fait, d'habitude, quand on joue sans esprit de playtest, on va juste utiliser les trucs qui nous paraissent utiles ou qui nous viennent à l'idée, quoi. Peut-être même des fois qu'on va être tellement immergé dans l'aventure que on va juste oublier sa feuille de personnage, on va être en roleplay, en roue libre, on va plus jouer l'idée qu'on a du perso que ce qu'il y a sur sa feuille. Ben, l'esprit de playtest, c'est peut-être au contraire de se dire, ah ouais, non, cette feuille de personnage, il faut l'actionner à son maximum. Donc, par exemple, si je teste un jeu propulsé par l'apocalypse, le personnage il a des moves, ben ce serait bien de me dire, bah je vais essayer de tester chaque move quoi. Peut-être que effectivement mon personnage il a aucune raison valable de faire ce move, ou du moins moi j'y en vois pas, mais ouais quand même c'est dommage de pas tester le move quoi, parce qu'il faut que derrière l'auteur ben il voit ce que ça donne. Voilà, ça c'est un jeu dans le bon esprit. Alors après, le mauvais esprit de playtest, c'est pas. Enfin, c'est à ça vous de voir si c'est bon ou mauvais. C'est le groupe qui fait bah, vas-y, on va te péter ton jeu, on va lui casser ses petites pattes arrière, on va te montrer toutes les failles. Bon, je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre cette attitude-là et puis cette attitude de dire, bah non, on est là quand même pour aussi passer une bonne partie, pour que toi, MJ, toi aussi tu passes un bon moment, que tu sois fier de ton jeu aussi. Donc on va jouer dans le sens du jeu, quoi. Si tu nous dis, bon bah voilà, vous jouez des personnages badass, on va pas jouer des chiffres molles juste parce que en fait la feuille de personnage. Comment te pousse pas à fond à jouer un badass quoi. On va aussi jouer dans l'esprit du jeu, même si la lettre du jeu elle n'est pas encore aboutie. On va jouer dans l'esprit, quitte à la rigueur, au moment du débrief, faire ouais, ok, tu nous as dit qu'on jouait des badass, donc effectivement, moi j'ai replayé ça à fond, tu vois, pour servir ton jeu. Mais après, quand je vois sur la feuille des personnages, excuse-moi, mais je comprends pas pourquoi il y a une compétence. Comptabilité quoi, c'est absolument pas badass comme compétence. Alors que par contre, il n'y a pas de compétence pour péter la gueule ou piquer une grosse colère, des choses comme ça quoi. Alors, mais il faudrait vraiment que je vous retrouve la biblio. C'était un super article. Alors. Ça, effectivement, dans le cadre de la GNS, on est sur une idée que les joueuses sont en diapason, sont toutes dans le même état d'esprit, et c'est ça qui va faire l'osmose. A contrario, je pense qu'on va aussi petit problème technique, hein, vous m'excusez, des fois il y a des problèmes techniques, et puis je les résous comme je peux, c'est un podcast qui ne sera pas monté trop, hein. C'est à la Wendegain encore une fois, je fais avec les contraintes de temps que j'ai. Oui, ce que je disais, c'est que on a aussi des osmoses qui peuvent survenir alors que les joueuses elles arrivent à la table avec des préférences, des priorités qui sont différentes, quoi. Par exemple, eh ben, on joue à Donjons et Dragons et puis il y a une joueuse qui arrive avec une guerrière. Sauf que elle n'est pas là pour jouer du combat tactique optimisé, tout ça. C'est juste qu'elle est venue là pour jouer une brute qui pète des grosses colères tout le temps et qui entraîne le groupe dans des situations compliquées. Il y en a une qui va jouer le barde qui est là surtout pour raconter des belles histoires, comment jouer de la musique et puis apporter un côté un petit peu conte à l'aventure quoi. On a peut-être effectivement la joueuse qui va jouer la paladine et qui est là pour aller au-devant de gros dilemmes moraux. Et puis encore une joueuse qui va être, ouais, bah non, moi je suis le clerc, je suis là pour vous soigner, je suis au service du groupe. Mais en même temps, ce que j'aime bien, c'est coordonner le groupe dans les actions tactiques. Et donc du coup, qui va amener du jeu tactique. Oui, là, je pense que j'essaie de vous dépeindre un groupe où toutes les joueuses, elles jouent, mais vraiment avec des styles ultra différents. Et puis en fait, la connivence, elle va monter parce que du coup, on va s'écouter tout simplement, quoi. Eh ben, il y aura des moments où effectivement, on laissera le barbare piquer ses grosses colères et foncer dans le tas alors que c'est la pire des choses à faire. Il y a des moments où on va s'asseoir au coin du feu, on va écouter le barde. Il y a des moments où on va laisser le palouf se prendre la tête sur des dilemmes moraux. Ah ouais, ce gobelin, c'est un monstre. Mais en même temps, il a l'air tout mignon, est-ce que je dois le tuer? Et ainsi de suite. Il y en a qui pensent que quand on joue comme ça, eh ben, il n'y a qu'une joueuse qui s'amuse pendant que les autres s'ennuient. Et on peut aussi penser qu'en fait on est capable de s'écouter, d'écouter un peu les autres jouer, de se renvoyer la balle et puis de faire cohabiter effectivement des attentes de jeu qui sont différentes quoi. Tout comme, de toute façon, dans un groupe social, genre on va se faire un bar entre copains, entre copines, eh ben on n'est peut-être pas toutes là pour les mêmes raisons. Il y a peut-être la personne qui est là parce qu'elle a juste pas le choix. Peut-être celle-là qui est venue juste pour boire des bières. Et l'autre qui est juste venu, qui est venu pour causer à fond, l'autre qui est venu pour écouter. Et puis bon, bah, on est quand même des amis, donc on va chacun se donner la place de faire ce qu'on aime. Et l'osmose, c'est aussi ça. Donc voilà, c'était la fin de ce podcast sur les osmoses. Je sens que j'ai eu une galère de micro, donc ça se trouve, je vais devoir tout réenregistrer. Bah voilà, en tout cas, amusez-vous bien, kiffez la vibe, entrez en osmose, et puis je le dis une fois pour toutes, hein, voilà, tout ça c'est des idées, je vous présente les choses peut-être de façon un peu absolue, il y a de relatif, surtout je veux éviter de dire qu'il y a des dynamiques sociales qui sont pourries. Le bon indicateur, quelque part, c'est le feel good. C'est-à-dire que si le groupe est épanoui dans son activité, c'est qu'il a trouvé son osmose, quoi. Et ben, il y a un groupe qui va avoir une dynamique d'une certaine façon et tout le monde va s'amuser, ça va être top. Et il y a un autre groupe qui va avoir exactement la même dynamique et ça va juste complètement pas le faire. Parce que ça dépend de plein de choses, ça dépend des personnes, ça dépend des jeux, du zeitgeist. Voilà, l'osmose, faut vraiment pas le voir comme un truc figé, prescrit. Au contraire, c'est de la science molle. Voilà, c'est sur cette mollesse que je vais vous quitter. Je vous dis à la prochaine.